Bonjour chers auditeurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce libre journal de la résistance française, j'allais dire, c'est un vieux souvenir, pardon. Ça s'appelle Les répliques du nouveau conservateur. Le nouveau conservateur est passé mensuel et nous allons dans les prochaines semaines revenir à ces numéros du printemps avec Guillaume de Thieulois, qui est le directeur de la publication, le directeur de la rédaction désormais. Mais cette fois, j'ai un futur auteur du Nouveau Conservateur, mais nous n'allons pas parler d'un numéro de la revue. Ce futur auteur, c'est Nicolas Mirkovic.
Bonjour.
On dit Mirkovic.
Mirkovic, bien sûr.
Non serbe.
Exactement.
Alors, nous connaissons depuis quelques années. Vous m'avez offert un de vos livres, Nicolas. Ça s'appelle Le chaos ukrainien. Il y a longtemps que je voulais vous avoir, mais diable d'homme, vous n'êtes pas parisien, donc ça n'a pas été très facile à vous.
C'est dur d'être provincial et de faire du bruit parfois dans ce pays.
Mais je crois que une partie de nos auditeurs vous connaissent tout de même.
Oui.
Vous êtes très raide sur un sujet qui me plaît beaucoup. Vous savez nommer l'Empire.
Oui.
Et c'est mes faits. Et ça, évidemment, pour moi, ça, il n'y a jamais eu d'équivoque, contrairement à bien d'autres sur le sujet. En bourgoliste, je n'hésite pas à dire que les États-Unis sont le principal adversaire, on ne peut pas dire ennemi, de la France. Ils veulent son mal, en réalité. Ils en veulent à sa puissance, à sa grandeur et à ses atouts. Et j'ai trouvé un frère à l'horizon, Nicolas Mirkovic, qui n'a pas toujours été comme ça, d'ailleurs. Parce que, parlez-nous un peu de vous, Nicolas. Nous allons parler de votre dernier livre, qui est paru au mois de juillet, qui s'appelle... Déclin et renouveau au mois de janvier aux éditions des CIRT. On va parler de ce livre dans lequel vous donnez des moyens de redresser ce pays. Et vous établissez d'abord des conditions, parce que les mesures, il y a 12 mesures qu'on va égrener, si vous voulez, mais qui vont intéresser, je pense, nos auditeurs, parce qu'il faut donner des espoirs un peu dans le désespoir général. Mais il y a des conditions préalables. Voilà, on va en venir à cela. Ce n'est pas votre premier livre. Votre premier livre, c'était, je ne crois même pas, un livre de 2019 qui s'appelle L'Empire.
Il y avait un premier livre sur le Kosovo.
Le Kosovo.
Que j'avais sorti avec Jean Picolec en 2013, qui s'appelle Le Martyr du Kosovo, qui explique l'envers du décor du Kosovo, de ce qui s'est passé en Yougoslavie dans les années 90, et puis cette agression illégale de l'OTAN contre la Serbie, qui n'avait rien fait à l'OTAN et qui s'est dont l'issue était une espèce d'indépendance de facto décrétée par l'OTAN du cœur même de la Serbie, le Kosovo et la Métochie.
Elle était très annonciatrice du reste, cette crise.
Oui,
boîte
de Pandore a été ouverte. On a vu. Moi, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux, j'ai compris.
Votre père est serbe.
Oui.
Votre mère est française.
Normande. Oui.
Normande.
Oui.
Et vous êtes né en Serbie?
J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Serbie.
Mais que faisait votre
Serbie.
Père, Nicolas
Mirkovic? Il était ingénieur conseil.
Et il passait d'une boîte à l'autre?
Il a beaucoup déménagé. Il n'était pas mauvais dans un petit truc à l'époque. Il s'appelait le microprocesseur. Et donc, comme il était plutôt doué là-dedans, il était pris dans pas mal de belles boîtes.
Et
donc, du coup, j'ai... Le petit Nicolas a fait un petit tour du monde... grâce au travail de son papa.
Et un jour, vous vous retrouvez aux États-Unis?
Oui, j'ai vécu quelques années aux États-Unis. Oui, j'ai vécu dans plusieurs endroits, mais pas mal dans l'Ouest, autour de la Silicon Valley, dans des endroits qui ne sont pas
vous
très connus.
Vous connaissez la Silicon Valley?
Je connais très bien. J'habitais à Cupertino ou Mountain View, avant même que les gens savent, qui étaient encore des petits villages, quoi, qui étaient en train de se développer à l'époque.
J'attends que ça brûle, tout ça, parce qu'il y a des forêts qui brûlent tout autour.
Il y en a qui disent qu'ils sont comme ça sur la faille de San Andreas, que du coup, la nature pourrait s'occuper du problème californien.
Bon, j'en souhaite
pas ça, mais du coup...
C'est le côté de Tour de Babel,
oui.
Et qui peut mal finir, en fait, Tour de Babel.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses aujourd'hui, on voit tellement d'éléments qui structurent notre société, qui émergent de cette fameuse côte ouest, notamment toutes les... Bon, on va progresser, c'est pas forcément tu pourrais, mais toutes ces inventions technologiques qui sont en train de transformer notre société. Avant, les hommes avaient des objets pour servir l'homme. Aujourd'hui, maintenant, nous, les hommes sont asservis aux objets. Et ça vient de la Silicon Valley et on a des idées comme le transhumanisme ou des choses comme ça qui sont très développées dans ces cénacles, des penseurs, des personnes comme Yoann, Noah, Hariri.
Ah oui, qui raconte des choses.
Qui dit qu'on sera tous des dieux, donc faites confiance à la technologie, vous serez tous super puissants, super intelligents, super beaux.
Éternel.
Oui, c'est la tour de Babel, exactement, et c'est faux. Donc, mais il y a des belles choses aussi en Californie.
À condition de sacrifier les trois quarts de l'humanité.
Ah bah oui, mais il y a un prix à payer.
Pour les trois quarts de l'humanité, ça disparaît.
Pour les happy few, pour ces petits... je vais mettre un euro dans le cochon. Pour ces petits nombres de personnes évidemment, qui vont se payer ce genre de technologie.
Ah, et on va voir si ça marche. C'est standalien,
donc on peut.
Ça peut aller s'acclimater.
Oui. Non, mais il se passe beaucoup de choses. C'est
Vous continuez à suivre un peu l'actualité aux États-Unis.
Ah, tous les jours. Tu vois, c'est indispensable.
Vous êtes toujours un peu un habitant des États-Unis.
C'est pas dans la tête. C'est-à-dire que si je veux faire une analyse de la géopolitique actuelle dans le monde, je suis obligé de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Si je veux même comprendre quelque chose en Europe, je dois d'abord regarder ce qui se passe dans la presse américaine, qui d'abord est plus libre, même si elle est aux mains des mêmes oligarques qu'on a chez nous, elle est quand même plus libre. Et il y a beaucoup de réflexions, et beaucoup d'ailleurs dans mes livres, je cite pas mal d'auteurs américains, tous ne sont pas alignés sur cette vision impériale. Il y a beaucoup d'isolationnistes, beaucoup de personnes qui regrettent ces guerres, ces crimes commis par les États-Unis, qui comprennent les enjeux financiers du complexe militaro-industriel dont nous avait parlé Eisenhower. Et c'est extrêmement intéressant de lire la presse américaine. Il y a moins de tabous qu'il y a dans la presse, on va dire, au grand public française et européenne. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Et si je veux comprendre ce qui se passe en Iran, en Russie, en Ukraine, en Chine... c'est intéressant de regarder la presse de l'Empire.
Est-ce que l'Empire a toujours cette perspective? Parce qu'en réalité, tout ensemble humain ne fonctionne qu'à l'espérance, d'une certaine façon.
Oui.
Est-ce que la dernière espérance de cette société états-unienne très contrariée n'est pas justement les perspectives radieuses du transhumanisme? Vous avez cité le nom, et moi ça m'intéresse beaucoup, je trouve qu'on n'en parle pas assez du transhumanisme.
Non, c'est extrêmement inquiétant.
Il y a une idéologie transhumaniste.
Ouais. C'est extrêmement inquiétant, on n'en parle pas.
Elle est toujours prégnante aux États-Unis.
Dans une certaine élite, auprès d'une certaine élite qui veut restructurer la société, qui veut mettre en place de l'ingénierie sociale pour transformer la société, pour la changer.
Et pour transformer l'homme surtout, pour faire un homme nouveau.
C'est pour faire un homme nouveau.
C'est la folie.
C'est ça, c'est de la folie. On veut mélanger la technologie à l'être humain, à la génétique. On veut refaire un homme nouveau, exactement. On veut le transformer. On pense que ces espèces de chimères vont avoir des vies plus belles. Et c'est un espèce de fantasme. C'est Icare qui veut s'envoler, qui au bout d'un moment s'approche du soleil et on sait comment ça se termine. Les ailes brûlent.
Un allongement progressif, mais finalement démesuré de la durée de vie.
Et exactement.
150, 160, 180. Oui, il y a de grosses boîtes qui ont une bonne partie de leur crédit, de leur... d'atelier de recherche.
Et fondé là-dessus.
Et fondé là-dessus.
Et fondé là-dessus. Et aujourd'hui, ça fait rêver un petit... des petits groupes de penseurs américains.
Il y a des Américains moyens, average people.
Parce que c'est pas leur souhait.
Non, c'est pas...
Oui, le souhait de l'Américain aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, comme la plupart des peuples américains, veut un meilleur pouvoir d'achat. Il veut... je pense qu'il y a eu un signal fort qui est parti des États-Unis avec l'élection de Trump, où les Américains se sont retrouvés massivement derrière un programme qui n'était justement pas
pacifiste.
Impérialiste, qui était un programme pacifiste, un Américain.
Moi, j'ai jamais
programme...
cru au pacifisme de Trump. Jamais.
Son premier mandat, il n'avait quand même pas mené de nouvelles guerres. Il avait entretenu d'anciennes guerres, il avait tué Soleimani en Iran, mais...
C'est déjà pas mal.
Oui, mais...
Il avait bombardé la Syrie. En Ukraine, on peut en dire un mot d'ailleurs, parce que votre livre a parlé...
Oui, il a donné beaucoup d'armes aux Ukrainiens.
Et publié en
2023.
2023, oui, sur l'Ukraine. Oui. Enfin, il a été président de 16 à 21.
C'est ça.
Donc, il a quand même été assez interventionniste sur l'Ukraine.
Il était interventionniste, mais il n'avait pas déclenché
pas
de...
Il n'a pas du tout machine arrière sur la machine lancée avec Maïdan en 2014.
Non, ça c'est clair. Il n'a pas fait. Puis il était tellement impliqué dans cette histoire du scandale, de la collusion avec la Russie, que je pense qu'il a été piégé lors de son premier mandat. Mais ceci dit, maintenant qu'il n'est pas piégé, on voit qu'il...
Vous dites qu'il est piégé.
Je pense que pendant son premier mandat, il est arrivé vraiment très naïvement au pouvoir en pensant qu'il allait mettre en place...
C'est sous son mandat que le gouvernement qui vient... bombarder les provinces russes.
Ça avait commencé avant. Hein. Donc du coup, là, c'est sous son mandat, sous Obama, et Biden comme vice-président.
Il n'a rien dit.
Non, il n'a rien dit parce que ce complexe militaro-industriel qui existe aux États-Unis, cette espèce d'État dans l'État, cette espèce de vision impérialiste, tous ces responsables du gouvernement américain qui ont tous fait le Council on Foreign Relations, qui est le réservoir de pensée américain qui formate vraiment la pensée diplomatique, la pensée étrangère, la pensée financière.
On a un ministre qui est passé par là.
Oui, on en a. Ça fait rêver tout un tas d'élites atlantistes à travers le monde. Donald Trump n'a rien fait pour lutter contre cette pensée. Et au contraire, donc je pense qu'il a essayé de trouver sa place. On lui a fait comprendre, parce que je pense que le système a quand même eu peur de Trump la première fois. Il y avait cette histoire avec la Russie qui s'est avérée être un pétard mouillé puisqu'il a été blanchi de toute collusion avec la Russie. Il y avait les médias contre lui. Mais là, on voit qu'il avait retravaillé son discours pendant sa campagne avec un discours qui était, je pense, encore plus radical qu'en 2015, avant sa première élection. Et on voit que depuis qu'il est élu, eh bien, tout ce qu'il avait promis au peuple américain...
La campagne de 2024, vous voulez dire.
Oui, la dernière campagne. Il avait musclé sa dernière campagne. Mmh. En plus, il avait dit qu'il avait compris. Il s'était entouré de personnes qui étaient quand même plus intéressantes.
Foncé, d'ailleurs, il était prêt, puisque le jour de son investiture, il a signé...
Oui, une centaine de décrets présidentiels.
Très bien préparé.
Exactement. Et on pensait, beaucoup d'Américains eux-mêmes pensaient que Trump allait mettre fin à cette politique de guerre, à cette politique impérialiste, que Trump allait enfin s'occuper des États-Unis. Parce que n'oublions pas que les États-Unis sont quand même particulièrement malades. C'est un pays qui est extrêmement endetté. 30 000, 40 000 milliards de dettes aujourd'hui publiques. Vous pouvez multiplier par deux quasiment la dette, trois même, la dette privée. Un pays qui souffre d'obésité, de suicide.
Un pays malade, plein avec des quantités de malades. Vous l'écrivez d'ailleurs.
Oui,
des obèses.
Exactement, c'est le société en train de se déchirer avec d'un côté des Américains qui veulent se rattacher aux valeurs traditionnelles.
Des gens qui ne peuvent pas dormir sans des tombereaux de somnifères, pire que nous.
Exactement, c'est un pays qui est vraiment drogué pour le coup. Et de l'autre côté, un pays aussi qui est très woke, qui veut plus du tout de frontières, plus de pays. Donc, il y a une opposition entre Américains. Et on est dans un empire qui est en train de plus que vaciller. Et ça, quand on regarde, lit l'histoire, on regarde à la fin de l'Empire romain, on n'est pas loin de ce genre d'allusion. Quand on pense aux États-Unis, ils n'ont plus l'unité qu'ils étaient capables de créer tout au long de leur histoire. Mais une histoire qui est assez complexe, mais ils ont toujours su rebondir. Et je pense que là, eh bien, ils avaient besoin d'une espèce d'homme providentiel qui pensait être Trump, qui allait enfin s'occuper des problèmes des Américains, régler les problèmes sociaux, régler les problèmes d'identité, régler les problèmes économiques. Les Américains ont voté pour Trump massivement d'abord
pour des raisons économiques.
Bien sûr, pour le pouvoir d'achat, il y a eu sous Biden une inflation de 20%. Et la déception est très grande aujourd'hui quand tu vois que Trump a fait table rase de son programme.
Il y a quand même des choses qui pouvaient mettre la puce à l'oreille. On a beaucoup dit, et je crois que c'est vrai, que son élection doit beaucoup à Netanyahou, déjà en 2016. Bon,
c'est possible, ouais. En tout cas, qu'ils soient amis, qu'ils soient alliés, oui, ça c'est sûr.
Ouais. Mais je crois qu'ils ont la même... j'ai peur qu'ils aient... D'ailleurs, leur conjonction aujourd'hui est assez solide. Ah, j'ai peur qu'ils aient le même messianisme dans la tête.
Mais il y a de ça, et l'entourage... Trump, je pense qu'il mange un peu à tous les râteliers, pour dire la vérité.
Je vois plus solide intellectuellement qu'on le croit. Enfin,
oui.
Non, mais...
il est plus malin qu'on croit, oui, ça c'est sûr.
En tous les cas, fixé sur une... sur un messianisme, il n'y a pas d'autre chose.
Oui, il y a
c'est celui des protestants qui surévaluent l'Ancien Testament.
Bien sûr.
Et
qui pensent qu'ils confondent Israël avec l'État israélien, avec l'Israël de la Bible, qui pensent que c'est la terre promise. Il y a dans l'entourage de Trump des personnes, Paula White, qui est sa conseillère spirituelle, qui est la conseillère spirituelle de la Maison-Blanche, et fait partie de ces sectes un peu protestantes, très exaltées, très néoconservatrices, et qui disent qu'il faut à tout prix... Elle dit qu'il faut faire des dons pour son salut, il faut faire des dons à Israël. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de proximité politico-religieux qui est assez trouble, et qui d'ailleurs compare Trump à une espèce de nouveau Jésus. Donc, elle fait des allusions à ça, et c'est assez malsain.
Il se laisse prendre au jeu.
Il se laisse prendre au jeu. Et donc, il rentre.
Hier ou avant-hier, un dessin étonnant fabriqué par l'intelligence artificielle.
Que lui-même met sur son réseau social. On le voit comme un thaumaturge en train de guérir, déguisé en Jésus-Christ. Enfin, c'est quand même très concernant, c'est très troublant. Parfois,
c'est troublant.
Oui, c'est troublant. Je pense que même d'un point de vue psychique, il se passe quelque chose de bizarre dans la tête de Donald Trump. Mais quand on se met à mettre des images de soi comme si on était Jésus-Christ, ça en dit long sur le personnage. Alors, on sait qu'il a un égo
démesuré. C'est très intéressant d'ailleurs, ça me passionne, ces bisbilles avec le pape. parce que...
Ce sont deux Américains. Mais pas de la même Trump.
Il n'est pas vraiment américain. Quand le pape a été élu, Trump s'est grimé de la même manière, peut-être déjà avec l'intelligence artificielle, en pape.
Oui,
il s'est fait représenter en pape.
C'est vrai.
Il y a une concurrence quand même de type religieuse. Il y a deux religions en concurrence. C'est la catholicité, qu'il faut dire, n'a jamais été très bien vue par les protestants, qui ont toujours lutté contre la catholicité.
Peu de personnes le savent, mais les États-Unis ont établi leur relation diplomatique avec le Vatican.
Très tard.
En 1984.
C'est ça, très
tard. À un moment où les Américains se sont dit que Karol Wojtyla, Jean-Paul II, pouvait servir leurs ambitions politiques, parce qu'il pouvait être un pape issu d'un pays communiste qui serait lui-même anticommuniste. Mais les relations avec le Saint-Siège ne datent que de 84. L'Algérie a des relations avec le Saint-Siège depuis 72.
Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Jean-François Colosimo, « Dieu est américain ».
Non.
Qui est assez intéressant. Déniant la catholicité ou la chrétienté de la religion, ce qu'il appelle la religion civile américaine, dont le vrai Dieu serait les États-Unis, justement. et alors, ça n'a rien à voir avec la catholicité.
Non.
Ma grande thèse, mon cher Nicolas, mais vous la connaissez, je crois, parce qu'on se rencontre souvent au cercle... avec François Martin. Ma grande thèse, c'est que l'Occident est en guerre contre la chrétienté. Mais que la chrétienté, avec un pape un peu vigoureux tel qu'on le voit ces jours-ci...
n'a pas dit son dernier mot.
Dit son dernier mot.
Non.
Il y a quelque chose qui a dit son dernier mot, à mon avis, c'est l'idée de la civilisation judéo-chrétienne. Quand on voit le sort réservé aux chrétiens du Proche-Orient, y compris au Liban, au Monceau, à M. Netanyahou.
Même en Cisjordanie, il y a des villages chrétiens qui sont rasés ou attaqués par des colons juifs, en Cisjordanie aujourd'hui, des colons israéliens,
oui.
Des extrémistes, parce que tous les Israéliens, Dieu merci, ne sont pas extrémistes, il y en a même beaucoup qui sont contre, mais
oui.
Le pouvoir de Netanyahou ne fait rien pour écouter la voix des Israéliens sages et laisse faire les extrémistes. Il y a aussi tout le sud du Liban.
Mais il y a une guerre de religion là-dedans.
Qui se dépeuple.
Qui n'a rien à voir avec la conjonction judéo-chrétienne.
Bien sûr.
J'ai beaucoup critiqué, y compris à ce métro, mon ami, on est resté amis malgré tout, Éric Zemmour, pour son dernier livre, auquel vous faisiez allusion peut-être. Je crois que c'est une imposture, cette conjonction judéo-chrétienne, et que le christianisme a son autonomie propre, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, enfin rien à voir, qui est très distinct, ne serait-ce que le rapport à l'argent, par exemple, et très distinct aussi de ce qu'est devenu cette forme totalement schismatique maintenant du christianisme, qu'est le protestantisme.
Bien sûr.
Surtout à la sauce américaine, où on dérive vers des sectes qui sont...
Qui n'arrêtent pas de se diviser.
Oui, dont la cosmogonie n'a plus rien de chrétien.
C'est certain.
Aussi sur la question de l'argent, d'ailleurs.
Bien évidemment.
Qui rejoignent justement bien davantage, là aussi, le messianisme sioniste.
Et il se passe un phénomène assez intéressant aux États-Unis aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de protestants qui sont en train de rejoindre l'Église catholique. Donc du coup, il y a une espèce de... il y a eu un phénomène qui est beaucoup parmi les jeunes, des jeunes américains, et même pas que des jeunes d'ailleurs, qui se convertissent au catholicisme parce que du coup, ils ne comprennent plus le message protestant. Ils voient ce protestantisme qui est plus politique, qui est de moins en moins spirituel, qui est de plus en plus divisé. Et il y a une espèce de recherche de l'authenticité et d'une voie qui est plus spirituelle que politique, plus dématériel que matériel. Et c'est un phénomène qui est assez intéressant.
Alors,
qu'on voit aux États-Unis
c'est
aujourd'hui.
C'est une manière d'aborder votre livre par la face nord, par le haut. Votre livre « Déclin et renouveau », qui est plein d'espérance. Mais on peut peut-être commencer par là. Nous sommes peut-être, nous, en train de retrouver notre cosmogonie propre.
Je pense.
Il y a un renouveau chrétien, on le dit beaucoup à ce micro depuis quelques mois, l'affluence... aux messes a réaugmenté de
c'est
façon
certain.
Étonnante. Les inscriptions au pèlerinage de Chartres, par exemple, elles viennent d'être ouvertes, elles sont déjà très nombreuses. On fait des pèlerinages un peu partout, Saint-Jacques-de-Compostelle. J'aime beaucoup mon prêtre gabonais dans mon petit village de Corrèze, qui l'année dernière exultait parce qu'il me dit « mais on m'a jamais autant demandé des messes, il y a des jeunes qui me demandent des messes avant de partir le matin.
C'est
ils veulent que je les bénisse. » Il était ravi. Mais alors, il faut à 6h du matin que je organise organise une messe, alors on dit, pas avant 7 heures, pas avant 7 heures.
Oui, les prêtres ont droit de se reposer.
Quand on voit un prêtre catholique gabonais dans un petit village qu'on croirait un peu perdu et qu'il est plus ou moins, où passent des jeunes pèlerins et qui demandent aux prêtres gabonais de faire sonner les cloches et de faire une bénédiction, j'aurais jamais cru que je verrais
personne
ça.
Personne n'aurait parié là-dessus. Oui. Les voix, quand on dit que les voix de Dieu sont impénétrables...
Oui, quand on parle de renouveau, qui est le titre même de votre livre, le mot fort de votre livre, le dernier, on touche du doigt quelque chose. Et le pape accompagne ce mouvement en plus.
Très clairement. Très clairement, il n'y a pas de doute.
Et ça ne plaît pas aux évangélistes.
Non, les évangélistes n'aiment pas ça parce que leur vision du message du Christ n'est pas le même. Et ce mauvais on va dire, mélange de genre que fabrique Trump aujourd'hui, son entourage et des pasteurs connus aux États-Unis, ce mélange de genre ne plaît plus du tout, moins en moins, à de nombreuses personnes qui veulent une véritable relation à Dieu.
Il y a un renouveau catholique aussi aux États-Unis. Oui, vous continuez à y aller, Nicolas?
Oui,
de temps en temps.
Non, je suis pas allé depuis très longtemps. Mais je pourrais y retourner. J'ai pas mal de.
Mais les catholiques aussi reprennent du poil de la bête aux États-Unis.
Exactement, aux États-Unis. Dans le monde chrétien, il se passe quelque chose en ce moment. Pourquoi? Parce que le capitalisme, à vrai dire, la société de consommation que nous connaissons, arrive à ses limites. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas parce que nous avons de l'eau courante, parce que nous appuyons sur un bouton, nous avons des électricités, nous appuyons sur un autre bouton, nous avons les informations du monde entier. Oui. Ce n'est pas ça qui a répondu à l'aspiration naturelle de l'homme au bonheur.
Il y a un dégoût.
Voilà. Et on voit qu'on arrive à sa fin, d'autant plus que maintenant, pendant longtemps, pendant les Trente Glorieuses, pendant la suite de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a vu les sociétés se transformer, on trouvait ça extraordinaire, on avait des réfrigérateurs, on avait tous ces éléments-là qui arrivaient, et c'était vu comme du progrès.
Ça a marché pendant 50 ans, mais maintenant,
exactement.
On en a un peu marre.
Et voilà, et une
ça
fois que vous avez
pas une vie,
un écran, deux écrans, un réfrigérateur, des réfrigérateurs,
trois
téléphones, eh bien, vous n'avez toujours pas répondu à cette question. Qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce qui va me rendre heureux?
Et pire, Nicolas, quand on fait la fête tous les jours. Je me suis aperçu que les fêtes, des jeunes aiment faire la fête.
Bien sûr.
Tout est prétexte à faire la fête. Mais les fêtes représentent de plus en plus ce que Léo Strauss appelait dans les années 20, c'est un écrivain de la contre-révolution des années 20 en Allemagne, appelait les joies sans joie. Les joies sans joie. C'est-à-dire que les joies et les fêtes et les teufs sont de plus en plus déprimantes en réalité.
On voit les jeunes se perdent dans la drogue. On voit de plus en plus d'usage de drogue. Alors, je ne vais pas mettre tous les jeunes dans le même panier, mais on voit ce phénomène de drogue alors que, qui s'accélère avec des drogues de synthèse, avec des drogues de plus en plus violentes, de plus en plus dures, où le but, parfois, pour certains, est d'oublier carrément sa soirée. Je ne veux pas dire que les soirées avant, il n'y avait pas de problème d'abus d'alcool et des choses.
La limite du plaisir arrive vite.
Ah, quand on oublie sa soirée, oui, à quoi sert le plaisir? Parce qu'il n'y a plus rien du tout.
On ne sait même pas ce qu'on a fait.
Donc, il y a ce phénomène et ce renouveau chrétien qui a ce renouveau catholique en tout cas est extrêmement intéressant parce que on voit des générations qui s'intéressent à l'essentiel. Et vous savez, une société, si on veut la redresser, eh bien, il faut de la verticalité. Et cette verticalité ne viendra jamais du matériel. Elle ne vient pas du matériel. Elle ne vient pas des promesses des politiciens. Il vient d'une quête qui tire l'homme vers le haut. Et cette quête, les Français la connaissent depuis longtemps. C'est une quête spirituelle. C'est une quête religieuse. Et je le dis très clairement. Je me dis que dans une société, dans une France qui renaîtrait, si le peuple français veut renaître,
ça passe par là.
Ah, c'est indispensable. Ça ne veut pas dire que tous les Français doivent forcément redevenir catholiques pratiquant tous les jours, parce que là, du coup, chacun est libre. Et je pense que c'est important.
Vous n'en faites pas l'alpha et l'oméga dans le renouveau.
Je dis que c'est pas possible de renaître sans renouer avec la foi. C'est impossible parce que il faut quand même ce regard vers l'au-delà. Il faut renouer avec des valeurs. Il faut de la vertu et l'Église. Ah, mais qui est spécialiste en l'être humain.
Elle a maintenant un rôle énorme à jouer.
Elle a tout. On a quelques-uns, notamment en France, dans la chrétienté, quelques-uns des plus grands penseurs, des exemples de personnes qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans les détresses de la vie moderne, que ce soit la détresse de couple, de vie de famille, d'angoisse par rapport à la vie, par rapport à la maladie. Nous avons des éminents spécialistes qui ont pensé, qui ont réfléchi à ces sujets depuis la nuit des temps, parce que rien de tout cela est nouveau.
Oui.
Et on est dans une société qui dit, si vous ne vous sentez pas bien, détruisez votre famille, vous en recomposez une autre, ou collez-vous devant un écran, prenez des antidépresseurs, et ça ne marche pas.
Ils n'en peuvent plus.
Donc, comme tout, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes naturelles. Et je pense que cela veut dire que les Français doivent renouer avec la foi. Je pense que c'est extrêmement important. Et je le répète, tout le monde ne peut pas, on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire « j'en redeviens pratiquant ». Mais sans cette verticalité, sans cette vision de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, sans ces valeurs partagées en commun, une société ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut ce renouveau. Et Dieu merci, on voit aujourd'hui. On voit ce renouveau. Et je dis aussi, il y a de la place pour des personnes qui ont d'autres fois. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Chacun, qui, on l'a vu, le message du pape Léon en Algérie récemment, qui dit bah, on peut converger avec des personnes de bonne foi qui se retrouvent sur des valeurs de justice, de quête de la vérité.
Est-ce que vous êtes orthodoxe?
Moi, je suis baptisé orthodoxe, mais j'avais des parents bi. Donc, bi dans le sens où, du coup, on allait indifféremment à l'église catholique. Donc, j'ai fait les deux. Donc, j'étais élevé dans la religion orthodoxe et dans la religion catholique.
Mais ça, c'est la vraie chrétienté. Parce qu'en réalité, les deux familles orthodoxes et catholiques sont très, très proches.
Sur les deux poumons de la chrétienté. Pour moi, c'est une richesse.
C'est Jean-Paul II qui parlait des deux poumons de l'Europe.
Exactement.
Alors, les protestants sont très éloignés par rapport à ça.
Oui, parce que du coup, ils sont pas... Mais à partir du moment où vous réinterprétez ce que des experts ont codifié, ont compris, et que chaque relecture vous permet une nouvelle interprétation, bah vous arrivez, au bout d'un moment, dans un phénomène sectaire, vous avez des personnes qui vous disent « Ah ben non, moi j'ai une idée que le précédent n'a pas eu, et le but c'est de chercher la nouvelle idée à chaque fois. » Et je pense qu'au bout d'un moment, les personnes veulent se retrouver sur une doctrine saine qui ne change pas tout le temps, qui ne change pas avec le temps. « Nolite confirmare hic seculo » nous disait Saint Paul, eh bien, c'est exactement le message que beaucoup de chrétiens veulent retrouver.
Dites-nous ça plus lentement, c'est
magnifique. « Nolite confirmare » confirmer, oui, c'est cool, ne pas se conformer aux idées du siècle.
Ne pas voilà. se coller aux idées du siècle.
Ne pas se coller aux idées du siècle.
Oui.
De Saint Paul, et c'est exactement ça.
C'est ce que
ça.
Disait Jean-Paul II, ou Ratzinger, je ne sais pas lequel, disait, on voudrait que l'Église se rapproche du monde, mais si elle se rapproche du monde au point de s'y fondre, elle n'a plus rien à lui dire.
L'aggiornamento n'a pas fonctionné. On voit bien même dans l'Église catholique, les erreurs, on a essayé de faire une messe qui était plus moderne, des chants qui étaient plus ouverts.
C'est complètement raté.
C'est complètement raté. Et ceux qui sont en train de revenir à la foi, au contraire, veulent de l'encens, ils veulent du latin, ils veulent du grégorien, ils veulent des curés en soutane, ils veulent des confessions, des vraies confessions, ils veulent du silence. Aussi, vous aimez bien aller dans une église.
Bien sûr.
Et c'est ça, et c'est bien, et c'est normal. Et mon côté orthodoxe, qui n'a pas connu cet aggiornamento, se réjouit de voir que les catholiques reviennent à un peu plus de retour vers le sacré.
Du petit lait, il y a un signe qui ne trompe pas, mon cher Nicolas, c'est que ce renouveau n'est jamais plus marquant qu'à l'occasion du carême.
Oui.
J'ai dit souvent, mais j'en suis toujours baba, que j'ai jamais vu mon église Saint-Germain-des-Prés. Je répète toujours la même chose, pardon, mais j'ai l'âge de radoter. J'ai bientôt 70 ans, donc je vais commencer à m'autoriser à radoter. Mais c'est étonnant, chaque année, la messe des cendres qui ouvre la période du carême, elle est pleine de jeunes. Et je pense qu'ils cherchent une frugalité, justement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait.
Y compris dans la consommation de tous les jours.
Mais bien sûr, il y a des efforts de carême aujourd'hui, des jeunes qui font des efforts
c'est
de carême.
Le mouvement écologiste, c'est un peu comme ça. Il est très déraisonnable, souvent, l'écologisme de base. Mais il répond à un certain appel à la frugalité.
Bien sûr.
C'est ce que
dit Serge Latouche, qui est vraiment un des... qui est un des penseurs de la... d'un peu un retour à la terre, d'un retour aux sources, et qui part de cette économie. Oui, Serge Latouche, la frugalité qu'il faut rechercher dans la société.
Et parce qu'elle réinstruit du plaisir, la frugalité.
Mais bien sûr, et les personnes ont besoin de ça. Comme je le disais il y a quelques instants, la société de consommation où on achète, où on pense qu'on est ce qu'on achète, ne fonctionne pas. On ne l'est pas. Et on crée dans cette société de l'amertume, de l'angoisse, parce qu'on ne peut pas s'acheter ce qu'on voudrait acheter, ou parce qu'on nous gave, littéralement parlant, à longueur de journée, d'images de personnes qui ont des choses qu'on n'aura jamais. Donc on crée de la déception et on essaie de faire croire aux personnes que si elles achètent tel type de vêtements ou si elles vont dans tel type d'endroit, elles vont être quelqu'un. Et ce n'est pas ça la réponse. Oui. Ce n'est pas du tout la réponse d'une société.
Oui.
C'est démoniaque. Je pense que si on a fait quelque chose qui n'est pas sain, et ce n'est pas en suivant ce modèle-là que la France a réussi à construire autant d'églises, de cathédrales, à créer une société qui fait l'admiration du monde entier. La France est quand même, parmi toutes les vieilles nations, une nation qui a apporté à son paroxysme l'art gastronomique, la culture, les arts, la poésie, la littérature. Le monde entier nous envie pour ça. Et on est en train de tout rejeter par-dessus l'épaule pour se jeter dans des écrans, dans de la nourriture qu'on fabriquait rapidement, de la nourriture industrielle. Comment, enfin, beaucoup d'étrangers sont les premiers à dire, mais est-ce que vous êtes complètement fou de vous ruer dans ce monde? Au contraire, vous devez être, et je pense que c'est notre rôle, parce que la France, j'en suis persuadé, a un rôle à jouer au niveau mondial, c'est de résister à cette industrialisation de la société, à ce prêt-à-penser politique, économique.
Et surtout qui crée un vide dans lequel peuvent s'insérer n'importe quelle folie, Konferenzstein.
À longueur de journée, on en a des exemples.
Oui, c'est le contre-exemple du... Parce que les êtres ont besoin de sens. Et l'expérience Epstein est aussi l'expérience... Parce que ça,
c'est terrible.
Qu'on va très au-delà de la simple, turpitude
non, c'est pas juste
pédophile.
Des...
Je crois que c'est allé très loin. D'ailleurs, un film de Kubrick qui dénonce la mode américaine et californienne aux soirées sataniques. Enfin,
oui, ça c'est connu. Ça, c'est pas... Alors, j'ai pas connu ça, j'étais gamin.
Kubrick dans son dernier livre. Comme par hasard, c'est son dernier film.
Oui. Ça montre aussi cette société qui est malade, qui est complètement malade. N'oublions pas que ces affaires Epstein, il y en a d'autres dans d'autres pays.
Oui, touchent il y en a eu d'autres aux États-Unis.
Quelques-unes des personnes qui sont les plus riches et qui ont le plus de pouvoir. C'est-à-dire que même ces personnes qui, quasiment en appuyant sur un bouton, ont ce qu'elles veulent, on voit qu'elles sont toujours insatisfaites parce qu'elles se ruent en espèce de
et ça peut donner des délires sataniques.
Des délires complètement sataniques à partir du
Epstein,
moment
c'est ça.
Du viol d'enfant.
Des sacrifices humains. Hein,
on dit beaucoup de choses. On aimerait bien que Trump, justement, qui avait dit qu'il ouvrirait, qu'il parlerait du sujet, on aimerait bien qu'il aille plus loin.
On ne sait pas ce qui se passe dans ce grand ranch de Nouveau-Mexique.
On ne sait pas.
C'est encore pire que le... Sur l'île.
Ce qui est certain, c'est qu'il était, il a des pédophilie, c'est des histoires de pédophilie avérées et qui touchent une partie de la population, qui dirige le reste de la population, qui est dans le monde des médias, qui est le monde dans l'économie, qui finance les politiciens. Vous voyez, on a la tête est pourrie, le poisson pourri par la tête, disait Erasme. Donc on est en plein dedans. Et on doit aujourd'hui, pareil, dans cette volonté de renouveau, on doit changer cette élite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Marx qui dit ça, avec Engels dans l'idéologie allemande, que le peuple, malheureusement, suit souvent l'idéologie du pouvoir en place. Donc, à partir du moment où le pouvoir est corrompu, eh bien, ça ruisselle. C'est ça qui ruisselle.
La corruption ruisselle.
La corruption ruisselle.
Donc, il faut inverser le mouvement.
Et voilà, il faut inverser le mouvement qui doit forcément venir de là-bas. C'est ce que dit Chomsky, c'est ce que dit la touche encore que je vais reciter. Il faut qu'au niveau de la base, on puisse retisser des liens, qu'on puisse renouveler avec cette verticalité.
C'est intéressant parce que vous êtes non seulement analyste politique, essayiste... mais vous êtes très versé en géopolitique.
Oui.
Il y a une traduction géopolitique de ce que l'on vient de dire. Parce que c'est très complet, d'ailleurs, votre parcours, de certaine façon. On retrouve l'enjeu de l'amitié, je dirais, avec la Russie.
Bien sûr.
Parce que c'est l'autre capitale de l'autre poumon orthodoxe. Et l'amitié de la France, de la France latine et de l'orthodoxie, dissidente, de plus en plus dissidente par rapport à l'Occident plus ou moins perdu, est assez prometteuse d'une certaine façon. Et vous remarquez d'ailleurs que dans l'actuelle séquence, Madame Meloni commence à faire entendre une petite musique qui ne plaît pas à Monsieur Trump. Elle se désolidarise, la première puissance à se désolidariser des aventurismes de Netanyahou et de Trump, les deux vieux compères, car je prétends qu'ils sont compères depuis très longtemps, qu'ils se lâcheront pas de cette façon.
Trump l'a reçu sept fois depuis qu'il a été élu.
Sept fois.
Et je ne sais pas si c'est pour ça que les Américains l'ont élu.
Avant son élection de 2015.
Mm-hmm. Ils sont proches, oui.
Il y a quelqu'un qui nous l'a bien caché, ça. C'est celui qui nous a vendu Trump. C'est Berkoff. Hein. Je garde un chien de ma chienne. Enfin, je lui ai dit, donc je peux le dire au micro. Et c'est l'Espagne, dont je ne citais pas le nom, mais il y a une espèce de secours de la latinité autour d'un pape plus combatif que jamais.
Oui.
Et on retrouve la même dissidence dans l'affaire ukrainienne où la Russie a été mise au banc de l'Occident, mais peut-être pas de la chrétienté, justement.
Clairement pas de la chrétienté. Vous savez, n'oublions pas dans quel état Poutine a trouvé la Russie, a récupéré la Russie quand il prend le pouvoir à la fin des années 90. Et la Russie sort de 70 ans de communisme, d'une inflation quasiment à trois chiffres, des oligarques russes et étrangers qui fondent sur le territoire russe pour récupérer tout ce qu'ils peuvent pour s'enrichir. Et quasiment plus d'un quart de siècle plus tard, la Russie aujourd'hui a sa propre industrie, son agriculture. Elle a investi, chaque année, des universités russes sortent de très nombreux chercheurs qui travaillent.
Et pour autant, le lien entre le patriarche de Moscou et Poutine est très étroit, enfin.
Oui, le Poutine va à la liturgie, il va aux célébrations religieuses, il reconnaît. Poutine a fait inscrire dans la constitution russe la reconnaissance des différents peuples, parce que vous avez une grande minorité musulmane, mais il écrit dans la constitution russe que les peuples russes, parce qu'il y a, sont des peuples de Russie, on devrait dire, reconnaissent Dieu. Donc ça, c'était extrêmement important. Nous, on n'a pas voulu les reconnaître, Chirac ne voulait pas reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, ce qui était complètement inepte. En Russie, Poutine fait inscrire la reconnaissance de Dieu comme le père des peuples en Russie. Et il y a eu, depuis la fin du communisme...
C'est le césaropapisme orthodoxe.
Oui, bien sûr, c'est propre au monde orthodoxe. Et c'est pour ça que je dis aussi dans le livre, on peut s'inspirer des bonnes pratiques, des belles choses qui sont réalisées à l'étranger, mais on va faire ça à la manière française. Et puis, on va s'inspirer aussi de notre propre histoire. On n'est pas obligé de copier, mais on peut s'inspirer et on peut se réjouir que dans certains pays, par exemple comme en Russie, eh bien, il y ait de nouveau des vocations, qu'il y ait de nouveau des demandes de baptême. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un pays de saints, que tout va bien, il y a encore beaucoup de choses à changer en Russie, mais ils n'ont pas peur de leur foi religieuse et ils ont compris en tout cas que pour redresser la Russie, cet élément religieux était fondamental.
Alors, puisque j'en suis là, je m'adresse à l'auteur du Chaos ukrainien. C'est un livre qui a l'avantage, si vous n'avez pas suivi, mes chers amis, tous les épisodes de l'affaire ukrainienne, là, depuis la Rousse...
La Rousse de Kiev.
La Rousse de Kiev, dans le Chaos ukrainien que Nicolas Mirkovitch, mon grand invité du jour, a publié en 2023.
Oui.
Vous avez tout le dossier, là. Là, vous avez le dossier complet, depuis d'abord toute l'histoire de l'Ukraine... les malheureuses tentatives pour l'Ukraine d'exister qui ont toujours tourné court, si bien que vous posez la question, est-ce qu'on a vraiment affaire à une nation ? Bref, ensuite, tout ce qui s'est passé dans les années 10 et 20, 2010-2020, et puis, comme vous arrêtez en 2003, je ne sais pas si vous en referez une édition, mon cher
En 2023
Nicolas. Qu'est-ce qui se passe là depuis un an? On a l'impression que Poutine piétine,
oui.
Je me trompe.
Oui, oui, non, je pense aussi. Je pense qu'il a voulu mettre une guerre.
Il ne veut pas aller trop loin ou il ne peut pas aller trop loin?
Je pense qu'il y a des deux. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, l'armée ukrainienne est soutenue par. Déjà, c'est une armée de conscription. Donc, du coup, ils envoient vraiment beaucoup de personnes sur cette ligne de front qui se battent bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'armée ukrainienne se bat avec beaucoup de valeur. Elle est en train de perdre du terrain. Je pense que Poutine veut éviter le nombre de morts, mais on voit que tactiquement, il ne progresse pas. Alors, du coup, certains disent qu'il est en train de chercher de faire une guerre d'attrition, de destruction de matériel. Il n'y a pas
ça. C'est net. Il a beaucoup détruit tout ce qu'il a pu.
C'est sûr. Il y a beaucoup de bombardements qui se passent de l'autre côté de la ligne de front.
Jusqu'à Kiev.
Exactement. Bah, même jusqu'à Lvov.
Jusqu'à l'ouest.
Mais je pense que oui, en effet, on a l'impression que ça piétine un peu. Je pense que c'est difficile. Je pense qu'il y a un phénomène de fatigue aussi. Je pense qu'il a intérêt à la terminer au plus vite. Je pense qu'il y a des négociations avec les États-Unis. Je pense que ça, c'est entré dans la balance. Et ça, personne ne sait ce qui s'est discuté en Alaska.
Oui, c'est très obscur.
C'est très obscur. Je trouve que tout d'un coup, les États-Unis sont plus cléments avec la Russie qu'ils n'étaient avant, tout en fournissant énormément d'informations encore à l'armée ukrainienne pour bombarder la Russie. Oui. Donc, c'est une espèce de relation de « je t'aime, moi non plus » qui est assez particulière. Pour autant, militairement, ils continuent d'avancer un petit peu. Mais c'est vrai, en effet, ça piétine un petit peu en ce moment.
Bon. Suivons ça, vous suivez
ça. Et je pense aussi que Poutine et les Russes regardent ce qui se passe dans le Moyen-Orient parce que les États-Unis ne vont pas pouvoir à la fois... je pense que Trump voudrait que les Européens se chargent de la Russie parce que le but des Américains, sauf s'il y a des grands accords économiques qui sortiraient, n'est pas non plus d'avoir une Russie trop puissante, comme les Américains ne veulent pas non plus une Chine trop puissante. Cette stratégie américaine ne changera jamais. Ils ne veulent pas de rivaux.
Oui, mais donc il faut à moitié détruire tout le monde. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et toi, il faut que à la fin du jeu, il faut que les Américains sortent vainqueurs et qu'il n'y ait pas de rival. Et c'est pas du complotisme que de le dire. Ils l'écrivent.
C'est sinistre.
C'est toujours. C'est toujours ainsi qu'ils ont fait.
Tous les gens qui vous gênent.
Quoi. Ah ben exactement. Zbigniew Brzezinski, dans son livre sur le grand échiquier, qui est un livre passionnant sur la géopolitique américaine de la fin des années 90, je pense qu'il est sorti en 97, voit le monde région par région, et quand il part de l'Europe de l'Ouest, il dit l'Europe de l'Ouest est globalement un protectorat américain. Nous les voyons comme des provinces, comme les empires voyaient leur province à l'époque.
Pour le dossier ukrainien, la solution, ça serait pas de la disparition de Zelensky, non, quand même. Parce qu'il n'est plus élu depuis 2 ans, son mandat s'est achevé il y a 2 ans.
Zelensky est une marionnette. C'est Mykola Azarov, qui est l'ancien premier ministre ukrainien, qui le dit. C'est une marionnette.
Il peut pas faire disparaître Zelensky, quand même. La CIA en a fait mieux, non ?
Oui. Les Américains vont le faire disparaître, mais ils s'en servent. Je pense que, comme je le disais il y a quelques instants, d'un côté...
C'est pas très net. Hein.
Non, c'est pas net. Ils aimeraient affaiblir la Russie. Ils ne veulent pas donner un chèque en blanc à Poutine, ça c'est sûr et certain. Et ils se servent un peu de Zelensky. Il y a de l'eau dans le gaz entre Zelensky et la Maison-Blanche, il n'y a pas de doute. Et ça, c'est lié entre autres des relations entre Zelensky et Biden. Ils étaient très proches et Trump en tient rigueur à Zelensky. Il ne pardonne pas. D'un autre côté, Zelensky aussi, c'est l'homme lige des Européens aujourd'hui qui nous finançons. C'est le tonneau des Danaïdes. Hein. On nous donne des milliards et des milliards et des milliards à la guerre.
C'est dépensier avec des oligarques qui s'enrichissent
qui
sur notre dos. C'est effrayant. Hein.
Et des gens qui sont happés dans la rue pour aller se battre pour une guerre qui n'ont pas envie de... Je pense que tout le monde est fatigué. Côté ukrainien comme côté russe, tout le monde voudrait que cette guerre se termine.
L'Empire, c'est vraiment le mal sur la terre. Hein. Alors, oui. Quand même, avançons un peu. D'ailleurs, chemin faisant, on a commencé à évoquer un sujet. Faisons-le avant d'écouter un morceau de musique. Je l'avais dit, mes chers auditeurs, pendant le cours des émissions, cette émission d'une heure est trop courte maintenant, 3 heures ça allait, je ne prends pas les questions. Par contre, je les regarde, je les assemble, et il y a deux groupes de questions qui ont surgi des dernières émissions. Une qu'on va peut-être traiter à la fin de l'émission sur le Liban, puisque ça fait l'objet de deux émissions coup sur coup, et une la semaine dernière avec l'ambassadeur Driancourt sur l'Algérie et le voyage du pape. On en a dit un mot sans le vouloir tout à l'heure, Nicolas. Notre ami Xavier Driancourt était très sceptique sur ce voyage, mais en fait, il s'est très bien passé.
Une
auditrice m'a dit pourquoi ajouter foi aux critiques de Xavier Driancourt. Et il faut dire aussi de notre ami Pierre Lours sur le pape. En fait, il a eu raison de jouer. C'est assez courageux parce qu'il y a aussi des conversions à faire.
Mais bien sûr, mais vous imaginez le pape qui va en Algérie. Donc déjà, il y a un élément de dialogue, de discussion qui est fondamental sur une terre où c'est peut-être pas facile d'être chrétien tous les jours. C'est peut-être sûr, mais les Algériens l'accueillent en grande pompe. C'est quand même un message important au reste du peuple algérien. Il va à Naba, ancien Hippone, sur les traces de Saint-Augustin. Peut-être que ça va devenir de nouveau un lieu de pèlerinage en Algérie. Je pense que c'est un message qui est plein d'espoir, un message où le pape a parlé de la paix, il a parlé de la réconciliation.
Et puis, il y a des conversions, il y a beaucoup de Kabyles qui sont assez près de se convertir.
Mais bien sûr, et je pense que ça montre aussi un visage de l'Algérie qu'on connaît pas. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait.
Ils ont été convertis à la religion musulmane par le fer et par le feu.
Par la suite, bien sûr, ils étaient chrétiens avant.
Ils étaient chrétiens, ils ont envie de le redevenir, de retrouver leurs racines chrétiennes. Ça, à la faveur de ce voyage.
Exactement, c'était un très beau geste, ça s'est passé dans une très belle ambiance. Le discours de Tebboune, le président algérien à l'égard du pape Léon XIV était élogieux, c'était agréable de voir ça. Donc on a toujours des mauvais coucheurs qui veulent voir le mal en disant oui, mais ils n'ont pas parlé de ce qui s'est passé à un tel qui a été en prison, ils ne veulent pas passer... Mais il faut voir le bon côté des choses, que l'Algérie accueille le pape et qu'il y ait un bon dialogue qui s'instaure et quelque chose de prometteur.
Vraiment grand pape, ça maintenant on en est sûr au bout d'un an, après son élection, je crois que c'était en avril dernier. Nous avons un petit bobino et nous allons écouter un texte, une chanson, cher Nicolas Mirkovic, que vous avez choisi et que nous allons commenter.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échoué si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'envie les épaves englouties, courriers qui cherchaient un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. « C'était un bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan.
Alors, on connaît cette chanson de Michel Sardou. Oui. Ce choix m'a étonné, mon cher Nicolas. D'abord, parce que Michel Sardou, il est très attentiste.
Hein. Alors, c'est pas forcément un morceau que j'écoute tous les jours, mais deux des morceaux de Michel Sardou, des classiques, j'aime beaucoup ce morceau. Et je pense qu'il incarne un petit peu l'esprit du début de mon livre. J'en parle d'ailleurs dans ce livre où on a cette idée de la grandeur de la France et beaucoup de Français qui sont nostalgiques.
Déclin et renouveau.
Voilà.
Votre dernier livre.
C'est France qui faisait rêver le monde entier, où on était vraiment un pays qui rayonnait sur le monde avec une culture forte. Voilà, c'est le départ du livre.
Mais c'est pas l'arrivée, justement.
Mais non, parce que justement,
l'arrivée est beaucoup plus optimiste.
On voit la suite de ce grand paquebot.
Alors, vous savez que Michel Sardou a reproché, mais violemment un jour aux Français, de se désolidariser du seul sauveur possible, les États-Unis.
Oui, mais ce n'est pas la bonne solution.
Vous dites, la solution, c'est exactement l'inverse.
Il y a beaucoup de chanteurs qui sont de piètre politique, vous savez, de piètre géopoliticien. Ouais. C'est tout à fait le contraire. C'est parce que justement, on s'est aligné sur les États-Unis que nous avons perdu notre souveraineté. Si on avait gardé notre souveraineté, c'est ce que voulait le général de Gaulle, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une puissance nucléaire, alors que les autres pays européens n'en ont pas, on a la bombe nucléaire.
La quantité de nos atouts procède d'une volonté d'indépendance.
Exactement, et de souveraineté.
C'est incarné par le général de Gaulle.
Et de vision sur le long terme. Le général de Gaulle a voulu travailler sur ce temps long, parce qu'on n'appuie pas sur un bouton pour transformer une société. Il a fait ça pour que la France reste souveraine et indépendante, tout en discutant, s'il le fallait, qui avec les États-Unis, qui avec la Chine, qui avec l'URSS
avec
à l'époque.
Entier, oui.
Qu'est-ce qui va servir les intérêts des Français? Voilà ce qui préoccupait le général de Gaulle dans l'essentiel de sa
Comme
politique.
Comme il sortait de l'orbite atlantique, on disait la France, le parcours solitaire de la France est seule. Elle n'a jamais été aussi branchée sur le monde, justement.
Exactement.
Et ça vaut pour aujourd'hui, ça.
Et ça vaut pour aujourd'hui.
Qu'elle est sortie de l'OTAN, en tout cas du commandement
intégré.
Et de l'obsession, ce qu'il appelait les dévots de l'atlantisme.
Exactement, il a dégagé les soldats américains de la France. Il n'y a pas beaucoup de... Je ne sais pas ce que Trump aurait dit, ça, mais il disait ça aujourd'hui. Mais à l'époque, il l'a fait, donc il se faisait respecter. Il avait
mais
cette vision...
Mais l'Espagne commence à y songer, je vous signale.
L'Espagne, en ce moment, ils ont son
la
courage.
La latinité aussi se réveille.
Ils sont courageux. Et c'est pour ça que dans ce monde qui change, les Français doivent tirer leur épingle du jeu rapidement. Parce que une fois que les cartes vont être distribuées, vous savez, de nouveau, la situation va se figer pendant quelques temps. Et si on loupe le coche, on peut le regretter. Et donc, le but n'est pas d'être soumis ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne. La solution est de retrouver sa souveraineté. Et c'est en retrouvant sa souveraineté qu'on pleurera pas cette grande France qui deviendra aujourd'hui...
On se demande si, après les malheurs de la Seconde Guerre mondiale, en fait, les malheurs de la Grande Guerre, c'est-à-dire, de Gaulle appelait ça la Grande Guerre de 30 ans, 1444, en fait, 1445. Or, tous nos malheurs viennent peut-être du fait qu'on a mal choisi nos alliances et qu'on s'est enfermé dans des alliances anglo-saxonnes, au sens large, comprenant l'Allemagne.
Oui.
Il a cru que l'Allemagne était un contrepoids, il s'est bien trompé. En fait, ce n'est pas un contrepoids, c'était un complément.
C'est clair.
Et il n'y avait pas de meilleur partenaire. C'était un faux couple, le couple franco-allemand. Parce que l'Allemagne était déjà mariée avec les États-Unis.
Complètement
et
vassalisé.
Nous a ramené justement vers l'Atlantique.
Exactement,
on était serré
dans les taux.
Le pari du général était complètement raté. Et peut-être qu'il faut reconvertir nos alliances, justement. Alors, vers la Russie, vers le monde orthodoxe, vers le monde latin.
Exactement, vers le monde africain. On doit retravailler nos relations avec le monde africain. Les derniers responsables politiques ont massacré la politique africaine de la France.
Mais ça, c'est terrible, parce qu'à droite, y compris dans cette radio, d'ailleurs, on entend beaucoup, mais bon, tant mieux, c'est la diversité des opinions, de trumpistes invétérés qui, plus le monde gronde, plus ils se réfugient autour de la Maison-Blanche, comme si la couleur de la peau était une solidarité salvatrice.
C'est une erreur
fondamentale.
Et
dans votre livre, vous partez de l'inverse.
Exactement, je dis, il faut sortir, vous savez, on va revenir à De Gaulle encore, mais qui disait que le grand problème dans les années 60, après le drame de la guerre d'Algérie, il dit, c'est l'Empire américain. Il le nomme, l'impérialisme américain. Il le nomme,
il dit même que nous avons été colonisés, le dit à perfide.
Il parle de snobisme.
Nous avons fini la colonisation de l'Algérie, maintenant on va entreprendre notre propre décolonisation le 3 janvier 63 et lui dire ça.
Il avait vu ça des années 60, aujourd'hui c'est encore pire, on a une élite qui a été biberonnée aux États-Unis, qui rêve de la protection des États-Unis et qui aujourd'hui est un petit peu Chafouin, parce qu'ils voient que Trump les traite comme des vassaux. Mais les États-Unis, ils ont toujours traité comme des vassaux parce qu'ils ne cherchent pas le bonheur des Français. C'est normal. Les Français doivent retrouver leur indépendance. Et les pays, juste, Paul Marie, là-dessus, je voudrais dire, c'est, les pays qui s'en sortent aujourd'hui sont des pays qui sont souverains. Vous prenez le petit Singapour, beaucoup plus petit que la France, il est souverain, il s'en sort. Vous avez de nombreux pays, l'El Salvador a lutté contre la criminalité, pas en demandant à Donald Trump de venir les sauver des gangs mafieux qui rôdent dans les rues d'El Salvador. On doit retrouver cette souveraineté parce que c'est, en plus, c'est empirique, j'ai presque envie de dire, c'est ainsi, quand la France était seule, qu'elle était soumise ni aux États-Unis, ni à l'Allemagne, ni à l'Angleterre, ni à l'Union européenne, qu'elle a été grande. Parce que c'est quand un pays cherche à répondre aux besoins de son propre peuple et qu'il n'y a pas de pouvoir au-dessus, que vous pouvez grandir.
Alors, le renouveau, c'est d'abord une réorientation de notre politique étrangère.
Claire. Voilà.
Deuxièmement, dans votre livre, on voit bien qu'il y a une précondition. C'est croire au miracle politique, croire à la politique.
Oui.
Et croire que la politique peut faire des miracles. Vous citiez tout à l'heure Singapour, à l'instant.
Oui.
Mais ça fait partie des trois miracles qui sont au cœur de votre livre et qui m'ont vraiment beaucoup plu. Vous montrez que quand le politique... On peut revenir à De Gaulle en 58 d'ailleurs, parce que la France n'allait pas si bien que ça à ce moment-là, et en quelques années, elle est revenue au premier rang des puissances, en 10 ans. Bon, elle n'a pas fait grand-chose, mais enfin, pendant 10 ans, on a damé le pion, on a même failli réussir à casser l'hégémonie du dollar, il s'en fallait de peu. Bon, ça a coûté cher. Le redressement en 10 ans, c'est fait, mais il y a d'autres exemples à l'étranger. Par exemple, alors vous citiez Singapour, mais il a fallu un grand homme aussi, une action continue d'un grand homme pour faire de Singapour un pôle de la croissance mondiale, alors que le pays était très pauvre avant quand il a accédé au pouvoir il y a 30 ans.
Il n'existait même pas, c'est un pays qui était récent avec des ethnies qui ne s'entendaient pas, qui se faisaient la guerre. Alors c'est clair qu'il y a eu un redressement politique, une volonté. Ce qu'il faut, c'est deux choses. Les exemples que je cite dans mon livre, ce sont des pays qui travaillent sur le temps long. Indispensable.
Ça, c'est la condition.
Ah, ça, c'est la condition. Si vous n'avez pas une vision à long terme...
Ça, c'est un éloge de la monarchie, mon cher
ami. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là, aujourd'hui, le quinquennat, avec des élections qui ne cessent de se répéter, avec des politiciens qui pensent constamment à leur réélection, détruisent la capacité d'un pays à se projeter, à travailler en disant « qu'est-ce que je veux pour ma jeunesse de demain ? Qu'est-ce qu'il faut comme emploi pour le futur de notre pays ? Quelles sont les technologies dans lesquelles je dois investir ? Qu'est-ce qui se passe au niveau mondial en termes de technologies que j'ai envie d'accepter ou pas accepter ? Comment je fais pour défendre ce qui est vital pour ma nation ? L'énergie, l'alimentation, le médical, voilà. Et ça, c'est sur le temps long que ça se fait. Donc évidemment, c'est ces élections qui se suivent avec des responsables politiques qui promettent de monts et merveilles et qui font tous la même politique. Eh bien, évidemment, c'est pas positif.
Il y a un autre exemple, c'est le Salvador aussi.
Le Salvador, sur la criminalité, ils ont...
En quelques années, la criminalité a été éradiquée au Salvador par la volonté d'un homme.
Exactement, qui a dit, mais non, c'est fini.
Et musulman, d'ailleurs.
Plébiscité. Oh, je pense que c'est son père qui est d'origine musulmane. Lui, il n'est pas trop clair sur le sujet, mais...
Nayib Bukele
a une place très importante pour la foi et pour la religion dans son pays. En tout cas, les processions catholiques en El Salvador sont très belles. Eh bien, il avait la volonté de lutter contre la criminalité. Il dit, ça, c'est un point d'orgue et je veux lutter contre la criminalité. Quel est le responsable politique aujourd'hui qui dit, je vais prendre le pouvoir et je vais lutter contre la criminalité?
Il s'est assis sur quelques-uns des principes démocratiques les mieux établis aussi. Mais
oui, mais il faut savoir
c'est
aussi...
C'est pas indispensable.
Moi, je suis un ferveur défenseur de la démocratie même directe. Je pense qu'il faut donner le pouvoir au peuple. Mais au bout d'un moment aussi, quand on prend des décisions, il faut les mettre en place. C'est mieux de les faire avec le consentement du peuple pour l'expliquer. Mais si vous demandez aux Français, vous dites demain, est-ce que vous voulez rentrer tranquillement chez vous? Est-ce que vous voulez vivre dans un pays sûr? On va mettre en place une politique qui va peut-être être un peu rock'n'roll pendant quelques temps, mais on va le faire, on va éradiquer la criminalité. Mais vous faites un référendum là-dessus, vous gagnez sans
et
problème.
Alors, vous n'êtes pas seul à avoir un certain optimisme en pensant qu'on peut se redresser. Vous avez choisi autre illustration musicale, mais un genre tout à fait différent, les Shérifs. C'est un groupe de Montpellier.
Un groupe punk, ouais, de Montpellier.
Un petit extrait d'un de leurs morceaux, Garder des munitions.
Ah oui.
Die!
guerre des diminutions, pourquoi pas la révolution ?
Chaque chose en son temps. D'abord, impliquons-nous chacun. D'abord, est-ce qu'on est tous à la hauteur de la situation ? On est dans une situation de crise qui n'est pas passagère, c'est une crise majeure. Donc il faut être à la hauteur de la situation. Il ne faut pas attendre des lendemains qui chantent, il faut s'impliquer chacun dans la société. Il faut recréer, face à ce monde virtuel qu'on nous impose, il faut recréer du lien social, s'impliquer dans la société.
Et vous avez, Nicolas Markovitch, Markovitch, vous avez non seulement des recettes préalables au redressement, mais même des mesures. Alors, je vous les laisse découvrir, chers lecteurs, reportez-vous aux éditions des CIRT, au dernier livre de Nicolas Markovitch.
Déclin et renouveau.
La première des mesures, d'ailleurs, on l'esquisse du bout de l'aile, c'est la famille.
C'est le pilier de la société. Il faut revenir à Aristote, l'héritage helléno-chrétien de la France, revenir à Aristote, pilier de la société. C'est autour des familles que se construisent
les chers auditeurs, je vous laisse découvrir les 11 autres et en même temps un très beau livre qui redonne un petit peu, comme la musique que vient d'entendre, un petit peu de cœur au ventre. Voilà. Alors, au les cœurs, Domine Salvam Fac Galliam, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci Nicolas Markovitch.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur, dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 15 avril 2026, de 16h à 17h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.